Africa 22 Sport avec Yao et Gaël sur Radioactive. C'est parti!
Bonjour, vous êtes bien dans votre émission Africa 22 Sport. Et vous avez fait le bon choix radiophonique puisque la bande FM est de retour suite aux aléas météorologiques. Et une fois encore, tient à remercier toute la partie technique qui ont vraiment fait un travail extraordinaire pour la reprise de votre bande FM 101.9. Donc ce samedi, on a la chance d'avoir vraiment, hier c'était le parfum du riz coqué, la continuité, où on a, hier on avait Christophe Lozac et aujourd'hui donc...
Non. Christophe Lozac, c'est ton invité de samedi, mon petit Yao. Voilà, on est en direct, c'est pas très grave. Hier, on avait Mathieu Leroux pour le Ring Coquet, l'équipe de France de Ring Coquet.
Mathieu Leroux.
C'est l'effet épervier, ça, comme on dit.
On voit bien que le renard suit le fil. Ouais.
Et donc, on a Christophe Lozac ce matin. Comment ça va, Christophe?
Je mets ton micro quand même, parce que c'est mieux. Ça va, Christophe?
Ouais. Oui, ça va, ouais.
Ouais, tranquillement. C'était une belle émission hier avec Mathieu Leroux.
Ah oui, c'était sympa.
Et puis c'est ton pote, Mathieu.
Et c'est un grand copain en plus.
Voilà, voilà.
C'est encore mieux.
C'est ça qui est chouette dans le Ring Coquet, c'est que les clubs s'arrangent très très bien pour la plupart. Et voilà, il y a un rapport fraternel, on va dire.
Ouais, c'est vrai que... on va parler entre Fragon et Quintin, c'est que... Tous les joueurs de l'équipe A, entre Fragon et Quintin, se connaissent tous. Et on est tous la plupart des copains, donc... C'est super cool, quoi.
Voilà. Et puis, mon Yao, alors, je veux faire une petite virgule parce que, on a un seul invité plateau aujourd'hui, hein, mais on a un autre invité qui nous attend. On va quand même passer un petit morceau parce que je tiens absolument à le remercier une nouvelle fois. Voilà. C'est un de ses groupes préférés, un de ses morceaux préférés, c'est Sniper, avec Gravé dans la Roche, parce que je remercie infiniment notre coordinateur d'antenne, David Morvan, qui nous permet d'être de retour ce matin, ce samedi matin, sur la bande FM, puisque c'est la tempête qui nous en avait privés. Et voilà, l'émetteur est de retour, Radio Active est de retour, et Sniper est de retour.
Et laisse parler la rage, moi et mes potes, on veut graver ça dans la roche, on a la dalle et rien dans le puits.
Vous êtes bien dans votre émission Africa 22 Sport, 10e journée saison 10, la prolongation ce samedi. Et si la technique nous permet, on va mettre le zoom du côté des lions indomptables du Cameroun. Nous, on a notre correspondant permanent de Africa 22 Sport du Mali qui est en visite chez le Narcisse Ngassam du côté de Cameroun. Alors, comment va Maurice Touré?
Allô mon frère Yao, comment vas-tu? Toi aussi, ça faisait un bail quand même.
Impeccable, je t'envoie la santé, comme on dit là-bas, Anissou Kouma, le bonjour malien. Et tu pars de Mali.
Bon, écoute, vrai que je voulais commencer cette émission par qu'on ait une pensée pieuse à notre correspondant au Canada, qui nous a quittés il y a quelques jours, vraiment une grosse, grosse pensée, et de la part de tous les correspondants, pour notre confrère qui nous a quittés.
On fait une pensée à Teko Kwiatkoe, ouais, cette semaine, on lui fait une pensée, puisque lui était basé du côté de Toronto. Il relaie beaucoup les actualités du ballon orange au niveau de la NBA. Bon, on va atterrir là. Physiquement, tu es où là? On attend beaucoup du bruit là. C'est du côté de Yaoundé, ça danse le Makossa là-bas, ou c'est qu'est-ce qui se passe?
Eh bien voilà, c'est vrai que tu entends les sonorités du Makossa. Je suis en plein cœur même de l'un des bastions du Makossa, c'est Douala, la capitale maritime du Cameroun. Et c'est là même, à quelques encablures de Moussoumoua, j'entends beaucoup de bruit parce qu'à Japoma, il y a les Lions indomptables du Cameroun qui vont jouer tout à l'heure contre le Djibouti pour les éliminatoires du Mondial 2026. Donc il faut dire que la ville de Douala est en effervescence, autant pour ceux qui sont partis au stade et même ceux qui sont dans les encablures des boutiques, des maisons. Dans quelques instants, ils vont regarder le match à la télévision, ceux qui se parlent au stade. Et tu connais le Cameroun, hein, c'est un pays de football. Ça va détenter.
On fait big up à notre correspondant qui est à quelques kilomètres de chez toi, Narcisse Ngassam, qui sera bientôt notre invité aussi. Alors, en quelques affiches de ce match de ce vendredi avec le Ghana qui reçoit Madagascar.
Ça klaxonne ce soir, hein, ça klaxonne.
Ben, il faut dire que les hospices, c'est depuis hier, hein, ça a commencé. Hein.
Ouais, ça
a eu quelques coups de clin, le Burundi déjà qui a gagné, les petits poussés qui ne l'acceptent plus. Il y a eu le match nul du Ghana. Donc voilà. Je crois que la Coupe du Monde, c'est une André Lanine qui n'a rien à voir avec la Coupe d'Afrique. Toutes les équipes veulent aller en Coupe du Monde. Donc même il faut se méfier des petits. Donc on a encore plein de matchs aujourd'hui. Le carton plein de l'Égypte avec les 4 buts de Mohamed Salah, la confirmation de l'Algérie, de Belmadi. Oui. Donc voilà.
Oh là là.
Une surprise, mais il faut dire que c'est pas fini. C'est la première journée. Mais d'ici quelques mois, d'ici un ou deux ans, on aura les heureux élus de l'Afrique. Il faut dire que ça passe par les matchs éliminatoires. Et bon, je crois que c'est des belles empoignades que nous allons avoir.
Maurice Touré, le correspondant permanent de Africa 22 Sport du côté de Mali, qui est physiquement au Cameroun. La Guinée équatoriale qui a concédé match nul face à la Namibie. Et la Rwanda-Zimbabwe 0-0. C'est vrai ce que tu dis tout à l'heure, les petites nations n'existent plus. Tout le monde a faim. Donc au niveau, la nivellisation de toutes ces équipes-là, ça se respecte sur le plan sportif.
Ben, il faut dire qu'au-delà des championnats, les championnats nationaux qui n'ont pas forcément grand écho, qui n'ont pas assez de moyens, il faut dire qu'aujourd'hui, que les joueurs expatriés africains de toute nationalité, ils sont un peu sur le circuit continental et international. Donc voilà, tu pourrais avoir 10 joueurs zimbabwéens qui seront, entre autres, dans le championnat anglais, la deuxième ligue, ou dans le championnat français, ou dans le championnat japonais, le championnat d'Arabie Saoudite. Donc, ça fait que cet exode aujourd'hui est bon à mal an, autant il est c'est la paupérisation des championnats nationaux, mais c'est aussi un bien à mal pour les équipes nationales, parce que ces joueurs qui vont s'expatrier deviennent des pions essentiels dans les équipes nationales. Donc, on voit que ces joueurs expatriés qu'on appelle les professionnels amènent leur expérience, leur expertise, quand ils donnent 2 ou 3, 4 ou 5 ou 6, ou même une belle panoplie comme la Côte d'Ivoire, qui a ses joueurs qui sont presque partout dans les grands championnats du monde. Donc, elle devient une équipe difficile à battre. Donc, voilà. Donc, c'est une belle opportunité que ces petites équipes se réveillent aujourd'hui avec leurs joueurs qui sont aussi dans des championnats autant majeurs, autant moins connus.
Maurice Touré, notre correspondant permanent pour les éliminatoires mondiales 2026, qui va se dérouler du côté de Mercosur, c'est-à-dire États-Unis, Canada et Mexique. Alors, on a vu les matchs du jour, on aura le Rosita puisque c'est en direct, Ghana-Madagascar, c'est-à-dire les Black Stars face aux Zébus de Madagascar, et ton pays, le Mali, qui va recevoir le Tchad. Alors, est-ce que les aigles vont pouvoir prendre plus d'altitude?
Ben, il faut dire que l'équipe du Mali est dans une ascension positive depuis la qualification pour la CAN 2023 qui va avoir lieu du côté d'Abidjan. Et voilà, avec cette poule malienne qui est du côté de Korogo, au nord de la Côte d'Ivoire. Et voilà, les plus, tout le monde dit que non, que l'équipe malienne est l'équipe qui peut peut-être surprendre, parce que cette équipe malienne, elle est jeune, elle est composée de jeunes, éclectique, un peu dispersée dans des gros championnats, des joueurs qui sont constants, parce que cette équipe est un peu le sature de ces jeunes maliens qui avaient gagné la Coupe d'Afrique de moins de 17 ans. Et ils sont remontés ensemble pour faire le championnat du monde de 21 ans. Donc voilà, cette équipe malienne, c'est une équipe compacte. On pourrait même dire que c'est un groupe qui se connaît très bien. Et on l'a vu aux éliminatoires, ils avaient fait presque un sans faute. Et en Côte d'Ivoire, tout le monde dit qu'ils peuvent s'y prendre. Bon, on espère qu'ils vont briser le signe indien, parce que depuis, entre autres, c'est le seul pays africain aujourd'hui, entre autres avec le Ghana ou encore le Sénégal ou la Côte d'Ivoire, c'est le pays aussi de football qui est en train de courir pour sa première CAN. Donc, pour les éliminatoires, moi, je ne crains pas. Les enfants de Sécouchel, ils sont préparés. Je suis sûr et certain que ce premier match va être un très bon tremplin pour eux et pour les matchs à venir.
Et sans oublier le match là aussi très important, suivre ça de près, le pays tenant du titre de la Coupe d'Afrique des Nations qui va jouer contre le Soudan, c'est-à-dire le Sénégal, Soudan du Sud. Et là, c'est une belle affiche aussi, hein, la santé vraiment de Lyon, de la Taranga, là, le Sénégal. Et n'a pas le choix hein, de face au crocodile du Soudan, ouais.
Ben écoute, je peux même dire que ces matchs qui sont lui actuellement, bon an mal an, c'est un peu des préparations pour la CAN qui va avoir lieu dans 2 mois. Donc voilà, Aloun Cissé est en train de chercher son équipe. On l'a vu, il a fait pas mal de changements pendant les derniers matchs. Mais il faut dire que Aloun Cissé a su se lancer. Il faut dire, hein, sans se tromper, que le Sénégal fait partie des pays qui seront favoris du côté de la Côte d'Ivoire. Donc voilà, ils ont ce rôle-là. Donc ils vont pas faillir, hein, j'espère. Bon. Et c'est vrai qu'ils ont une équipe un peu vieillissante parce qu'il y a d'autres qui sont véritablement à la fin de leur carrière avec l'âge de le début de la trentaine comme Sadio Mané, Kalilou. Voilà, ce n'est plus des jeunes joueurs. Donc on va voir un peu, entre autres, avec le mélange de quelques nouveaux jeunes, Illimane Ndiaye de Marseille, et voilà, avec quelques jeunes Jacob qui arrivent, on ne sait pas comment est-ce que ce quel visage le Sénégal va montrer à la CAN. Mais déjà, pour en faire une idée, on verra ce match contre le Soudan, on verra comment est-ce que le Sénégal va se comporter. Mais il faut dire que les premiers matchs, ces matchs-là gagnés du Sénégal vont véritablement donner, je pourrais dire, hein, va jeter les jalons de la Coupe d'Afrique qui va être extrêmement incessible, parce que jusqu'à preuve du contraire, personne ne peut aujourd'hui dire quelle équipe africaine peut remporter cette CAN du côté de la Côte d'Ivoire.
Maurice Touré, notre correspondant du côté du Mali qui est au Cameroun physiquement. Donc, dernier résultat hier, là, les Soudans face aux éperviers du Togo, match nul. L'épervier, il s'envole plus comme il faut. Hein. C'est le petit épervier qu'on voit, ça. Ce n'est pas face au Soudan.
Ben écoute, je pense que la Fédération togolaise de football a décidé de rester dans la continuité depuis leur élimination de la CAN. Ils ont décidé de ne pas chambouler l'encadrement technique. Je voyais encore avant-hier, ils ont reconduit, le président de la Fédération a reconduit Paulo Duarte, le Portugais, l'ex-entraîneur de Burkina Faso, parce qu'il a fait un travail formidable, bien que l'équipe n'a pas été qualifiée, mais il faut dire que le Togo est en construction. Voilà, c'est plus le Togo d'Adebayo, c'est une nouvelle génération, des nouveaux jeunes, voilà qui commencent à avoir des places à l'international, même aussi le circuit national. Donc, le Togo est en construction, et je pense que la fédération a hyperment bien fait. Je crois que tout porte à croire que le match nul d'hier, et c'est un peu le résultat un peu de ce maintien de Paulo Duarte, parce que c'est une ossature qu'il connaît. Donc, il va leur donner les armes de telle sorte qu'ils puissent avoir des dents longues pour qu'ils puissent être devant les grands rendez-vous, parce que le Togo, c'est aussi une grande nation de football du côté de l'Afrique de l'Ouest francophone.
Maurice Touré, dernière question. Là, le continent passe de 5 nations à 10 nations pour la Coupe du Monde de football. Alors, on peut dire que c'est une excellente nouvelle au niveau de la délégation africaine pour la plus grande compétition qui est la Coupe du Monde de football.
Ben écoute, on le doit tout ça aussi au super parcours des clubs africains. Et l'année dernière, on a vu un peu
Le Maroc,
à la surprise générale, qui avait battu le Portugal, qui a battu l'Espagne, qui était même à côté d'un exploit. Donc voilà, aujourd'hui, je pense que la barrière footballistique a sauté. Et une équipe africaine peut remporter aujourd'hui la Coupe du Monde. Je le dis et je le confirme. Et voilà, c'est vrai qu'il nous manque quelques détails. Et parce que les joueurs au standing à l'international, ils n'ont rien envié au grand club. Bon, c'est vrai que l'atmosphère dans nos fédérations et dans nos équipes nationales, il y a quelques petits bobos, mais je pense que si on a réparé tout cela, une équipe africaine est capable de remporter une Coupe du Monde. Dieu merci, on a augmenté encore les chances de l'Afrique en augmentant le nombre de participants. Et c'est de bonne guerre pour le continent africain, qu'on a les ténors, on a aussi les équipes surprises. Mais tout ça, nous le devons au bon rendement des équipes africaines qui, depuis quelques années, qui ne se contentent pas seulement des 3 matchs de poule éliminatoire. On a vu aujourd'hui, depuis le temps de Roger Mila, les équipes africaines qui dépassaient le premier tour. Souvent même, on avait 3 équipes africaines qui dépassaient le premier tour. Oui. Donc, c'est des bonnes guerres. Autant qu'on a augmenté le nombre de tout le monde, que l'Afrique aussi ait aussi cette chance-là pour que, une fois de plus belle, ce continent-là de football puisse avoir une nation pour remporter une Coupe du Monde qui va être un événement autant pour le pays, mais autant pour le continent africain.
Maurice Touré qui sera bientôt en format Coupe d'Afrique des Nations, pays des éléphants, au milieu de Didier Drogba, où en développement, on va beaucoup développer ce bel événement qui est la plus grande fête du football africain. Merci beaucoup Maurice Touré, continue à écouter Radio Actif, toi qui connais très très bien la Bretagne, où tu viens chaque année nous faire le show.
Oui, avec je suis citoyen d'honneur, je suis citoyen. Yahoo, je suis citoyen d'honneur de Carré.
Ah, oui, ouais, Carré, ouais.
Le Breton noir.
Ah, le Breton noir. Black Braise. Merci beaucoup, Maurice Touré. Continue à consommer ta station radioactive depuis le Cameroun.
Ah, on peut pas s'arrêter, parce que écouter Maurice Touré, c'est un grand plaisir. Donc c'est Can't Stop avec Red Hot Chili Peppers. C'est un week-end Red Hot Chili Peppers sur Radioactive. Non mais c'était dingue. Les avoir cet été aux Vieilles Charrues, c'était fou. Tu aimes bien ça, Christophe, Christopher Lozac, qui est avec nous ce soir.
Je les ai vus au Vieilles Charrues aussi cet été.
Ah, c'était de dingue ça.
Ah, c'était super.
Et un lundi, c'était plein comme ça, jamais été aussi plein.
Ah ouais. Ouais. J'ai jamais vu les Vieilles Charrues comme ça.
Ah, exactement, exactement. Donc ça valait le coup. On n'est pas habitué à les entendre sur Radioactive, mais il faut vraiment saluer ce qui s'est passé cet été à Carré. D'autant que Maurice Touré est citoyen d'honneur de Carré. Petit clin d'œil Yao, parce que quand j'entends Mali, j'entends Patrice Carteron, bien évidemment. Le Mali est déjà venu jouer à Fred Aubert, c'était en 2013 contre l'équipe de Bretagne. À l'époque, Patrice Carteron, le petit gars d'Ilion et du Stade Briochin, était le sélectionneur national du Mali. Et bien sûr, on envoie un gros bisou à Patrice qui nous écoute depuis le Qatar, où il est encore coach à l'heure actuelle et où il fait un joli championnat du Qatar.
Mali, grande nation du football avec Salif Keita, bon, qui a marqué les poupées. Et on fait big up à tous les correspondants et qui nous relayent, qui vont nous encore faire encore plus en formant pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations le 13 janvier. Alors tu t'intéresses un peu, tu es un peu amoureux de toutes les disciplines sportives en général. Alors la Coupe d'Afrique des Nations ou les nations au niveau, lorsqu'on parle de cette grande fête du football africain, tu t'intéresses un peu ou plus ou moins ou la CAN
Oui, je regarde certains matchs. Je vais pas dire je regarde tous les matchs. Je regarde généralement les grosses affiches parce que c'est le soir généralement déjà et que je travaille la journée.
Pas que ça à faire non plus. Hein.
Mais si, c'est. Je trouve que le football africain il se développe de plus en plus ces dernières années là.
Comme disait Maury, la star du football africain, c'est côté la nivellisation, parce que le score à stratosphérique où on voit le Ghana qui tape le Lesotho 5-0 n'existe plus, puisque Ghana Lesotho justement ce week-end c'est 0-0. Donc la plupart de tous ces techniciens, joueurs africains qui évoluent dans les plus grands clubs du monde, quand ils rentrent à la maison, c'est la continuité. Il y a la source aussi qui fait le reflet de la nivellisation des niveaux des équipes africaines, c'est le champ. Coupe d'Afrique des Nations, des nationaux.
Dans Africa 22 Sport, on pense évidemment aux autres et on pense à ceux qui souffrent, parce qu'il faut quand même rappeler qu'au Mali en ce moment les choses sont loin d'être simples. On salue d'ailleurs les familles des soldats qui sont tombés sous le feu et voilà, il fallait le rappeler aussi. Mais en tout cas, il y a beaucoup moins de dangers autour des terrains de Quintet et de Saint-Brandan. Un petit mot, parce que Christopher, donc tu es de Saint-Brandan et du club de Quintin, le ring coquet et le football, ce sont deux sports frères. Hein, il y a vraiment une belle proximité entre ces deux sports-là.
Oui, c'est vrai que ça se ressemble beaucoup. Et d'ailleurs, le club de Saint-Brandan-Quintin, à son terrain, est juste à côté de la salle Guy Bazin.
Voilà, salle Guy Bazin et le stade que j'adore. J'ai joué dessus. Ça y est, je vais buter sur le nom.
Je ne trouve plus le nom non plus, mais...
c'est trop bête. Jean de Bagneux, voilà.
C'est ça.
Stade Jean de Bagneux à Quintin, qui est un super stade. Alors, mon petit haut, je sais pas ce que tu avais prévu, toi, de ton côté. Est-ce qu'on a un autre invité par. Alors, on devait écouter la voix de ton correspondant qui nous a quitté, mais ça va être compliqué.
Arrête au Kondjo. Je vais essayer, pendant au niveau de quelques passages musicaux, pour essayer du côté d'Arizona.
On va essayer de se mettre avec Aito Kondjo pour parler de basket. Et puis, on va rester un petit peu ensemble, mon ami Christopher. Alors, le stade Jean de Bagneux qui est juste à côté de vous. On voit souvent d'ailleurs s'entraîner les joueurs de ring hockey avant le début d'une rencontre, faire des exercices de jonglerie ou de tennis ballon avant les entraînements. Ça se pratique aussi à Quintin?
Ah oui, c'est un rituel d'avant-match. Ouais. Si on n'a pas notre tennis ballon, on ne va pas rentrer dans le match correctement.
Ouais.
Mais ouais, c'est. Après, on est beaucoup de joueurs qui avons joué au foot aussi avant de faire du hockey. Donc forcément, on aime bien toucher un petit peu la balle. Avant de s'échauffer correctement, on va dire.
Donc t'as fait tes premiers pas, toi, à la Jalousée ou à Jean de Bagneux?
Non, moi j'ai fait mes premiers pas de football au Stade Briochin.
Ah, Ah bah tiens, tout simplement, on en parlait tout à l'heure. Stade Briochin, alors l'émission est enregistrée, hein, en ce moment où on enregistre, ils sont en Coupe de France contre Concarneau, mais on connaît pas encore le score. Par contre, là où je suis sûr, c'est qu'il y a une super ambiance à Fred Aubert ce soir. Oui, c'est Coupe de France, et c'est Coupe de France ce week-end pour vous aussi.
C'est ça, Coupe de France aussi ce week-end pour nous.
Voilà, c'est des épreuves qui sont très très chouettes à disputer. On va en reparler tout à l'heure. Pour l'instant, un petit morceau musical. Tiens, on a parlé hier soir du capitaine du SPRS, Jurmé, une petite dédicace en plus, que c'est quelqu'un qui est fan de Jacques Brel. Tu aimes bien Jacques Brel?
Oui, j'écoute des musiques aussi de temps en temps, c'est pas mal.
Eh ben écoute, c'est une reprise de Jacques Brel, Amsterdam, par Trigone Plus. Je suis tombé dessus par hasard hier soir, parce que je voulais lui mettre un Jacques Brel au père Wilfried. Et tu vas voir, c'est très sympa. Allez, on se retrouvera après Trigone Plus, Amsterdam. Bonne matinée à tous, il est 11h20 et on se retrouve tout de suite avec le Quintin Roller Club.
Femme infidèle dans le port. d'Amsterdam, dans le port d'Amsterdam.
Alors moi je dis, c'était un moment mais incroyable, j'adore ce morceau, j'adore cette reprise. Pas vrai Christopher?
Ah ouais, je connaissais pas et franchement c'est pas mal.
Ah c'est bon ça, donc c'est Trigone Plus, allez voir, allez écouter plutôt, hein, sur, bah, sur les plateformes habituelles, hein, Spotify, Deezer, ce qu'on veut. Et puis voilà, bon on va parler roller ce matin sur Radioactive avec toi Christopher. Et puis aussi avec ton président Sébastien Anger, tu connais Sébastien depuis longtemps, j'imagine. Quintin, alors, avant de présenter Sébastien, on va te présenter un peu plus, peut-être, Christopher. Tu es Ploufraganais.
Je suis Ploufraganais, oui.
Voilà. Ça veut dire que tu as fait les deux clubs, en fait, le club de Ploufragan,
ouais,
et le club de Quintin.
J'ai été formé au SPRS,
ouais,
jusqu'à mes 14 ans, 15 ans.
Hum?
Et ensuite, je suis parti à Quintin et j'ai refait une petite pige à Ploufragan il y a 3 ans ou 4 ans maintenant.
Ouais.
Pendant le Covid, et je suis revenu après à Quintin, et depuis j'ai pas bougé.
Et t'as Quintin dans la peau.
C'est ça.
Voilà.
J'ai les deux clubs un petit peu dans la
peau.
Ouais,
bien sûr. Non, mais c'est chouette. Il y a beaucoup de joueurs qui ont fait, en fait, les différents clubs. On l'a cité hier soir. Tony Leroux, qui est avec vous à Quintin. Ça, c'est un sacré renfort qui vous est arrivé.
Ah ouais, c'est un sacré renfort et un sacré plaisir aussi, parce que quand on connaît Tony, avec sa vitesse, son patinage, Tony, quoi.
Redoutable.
C'est toujours un plaisir de l'avoir avec nous, et pour les jeunes du club aussi, c'est super important.
Ultra spectaculaire, et puis un chien, comme on dit. Il lâche rien.
Ouais, un acharné.
Ouais, alors il y a également des joueurs, hein, y a les transversales, elles servent pas que à Tony. On a également Angel Puyanet qui est arrivé chez vous et qui lui était passé par le RAC auparavant, je crois. Peut-être bien par Ploufragan aussi, non ?
Il est passé par Coutras.
Coutras, ouais, bien sûr.
Au tout début, après il est venu à Ploufragan, puis Saint-Brieuc,
ouais,
et Quintin.
Voilà, c'est ça. Et ça tourne. Et puis toi aussi. Et puis bien sûr, un petit clin d'œil à Titouan Rousseau, hein, qui a fait des deux clubs également. Mais ils sont plusieurs, hein, dans ce cas-là. Hein. La liste, elle est non exhaustive, bien évidemment. Alors oui, ton président. Eh ben écoute, on va l'écouter tout de suite. Sébastien Auger, président du Quintin Roller Club. Et on se retrouve juste après pour parler rink hockey. Mais à Quintin Roller Club, il n'y a pas que le rink hockey. Allez, à tout de suite. Bonjour Sébastien Anger.
Bonjour Gaël.
Alors très heureux de t'avoir pour la première fois sur Radioactive pour parler de ton club, de Quintin, le Quintin Roller Club. Alors qui a plus d'une corde à son arc, puisque on va parler de rink hockey ce week-end sur Radioactive, mais il y a également le roller de vitesse, le marathon, etc. Combien de licenciés à l'heure actuelle au Quintin Roller Club?
Alors aujourd'hui, on a la chance de pouvoir compter 240 licenciés sur toutes les sections confondues, avec trois gros pôles, le rink hockey, l'artistique et la section course.
Voilà, alors c'est un club, comme on dit, qui vit bien, avec beaucoup de gens. Et puis hier soir, il y avait aussi une grosse action qui est importante pour le club et qui apporte du lien social sur Quintin et les alentours. C'est le loto, hein, avec, j'imagine, beaucoup de personnes qui viennent chaque année.
Tout à fait, on peut compter environ à 350 personnes pour participer au loto, et qui nous permet d'avoir des recettes et pouvoir faire vivre le club sur le long de l'année. On a trois actions comme ça sur l'année, trois lotos qu'on peut faire.
Voilà,
qui fonctionne très bien en général.
C'est à saluer. Alors juste pour que les auditeurs comprennent, on est enregistré là en ce moment, c'était hier soir, mais voilà, en fait pour nous c'est pas encore passé, mais on sait qu'à l'heure qu'on parle, que de toute façon ça va cartonner comme d'habitude. On revient sur la piste, parce que lorsqu'on arrive à Quintin, la première chose qu'on voit, c'est cette belle piste sur la gauche de la route, hein, alors qu'était autrefois aussi un vélodrome, mais bon, les normes ont changé.
À la base, oui.
Mais c'est vrai qu'on y patine. Quintin, c'est vraiment une place forte du roller.
Oui, tout à fait. Après, c'est vrai qu'au niveau du vélodrome, on pratique surtout de temps en temps l'été. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on pratique surtout en salle. Au niveau de la salle Guy Bazin, qui est le point central du Quintin Roller Club.
Voilà. Et puis, alors avec différentes manifestations, dont le marathon. Alors, j'ai cru voir, je me trompe peut-être, c'est les grenouilles à roulettes, c'est bien ça?
C'est bien ça, c'est les grenouilles à roulettes. On a retiré ça, on a repris la même chose quand on faisait les 6 heures du roller dans les rues de Quintin pendant de nombreuses années.
Exact, avec beaucoup de spectateurs, et parce que c'est vraiment très spectaculaire.
C'est des courses soit en individuel ou par équipe, et c'est vrai que ça a apporté énormément de spectateurs pour pouvoir participer aussi.
Ouais. Avec un superbe plateau cette année, puisque j'ai cru voir sur vos belles publications que vous aviez notamment la présence de Nolan Bediaf, champion du monde de roller. Vous aviez également Marine Lefebvre, Martin Ferry, qui sont vraiment de très très gros champions. Ça aussi, c'est une belle reconnaissance pour le QRC.
Oui, tout à fait, c'est une belle reconnaissance, sachant qu'ils ont eu la chance de pouvoir venir, et nous, on a eu la chance aussi qu'ils viennent, et ils ont tous approuvé avant la Coupe de France, la Coupe de France de marathon, la première étape, là. Ils ont pu essayer la piste, et on a eu leur aval, et ils étaient contents de cette piste-là, qui était très, très physique.
Voilà, et qui là aussi a donné de jolis résultats. Avant de revenir au rink hockey, on va passer sur le deuxième volet avec le patinage artistique dont tu viens de parler, avec ce week-end un gala que j'imagine tu invites les auditeurs et les spectateurs à venir voir.
Ah oui, tout à fait. Après, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir Nolwenn qui gère une équipe artistique qui tourne très bien, avec des nouveaux arrivés, de nombreux licenciés. Et c'est vrai que le gala qui tourne sur 2 jours, ça veut dire samedi soir, qui est déjà complet, et dimanche après-midi à 15h, où il nous reste des places si vous souhaitez venir.
Voilà, avec là aussi un super spectacle. Le patinage artistique, ça commence de très bonne heure. Dès quel âge, Sébastien?
En général, on fait commencer juste après l'école de patinage, où on peut démarrer à partir de 4 ans, en général. Et il tarde pas à aller dans les sections d'artistique. On va dire 6 ans, je pense qu'ils peuvent commencer sans problème.
Voilà, avec garçon ou fille, comme on veut.
Garçon ou fille, tout à fait.
Voilà. Et puis, je cite également au passage, une superbe soirée, il ne faut pas l'oublier celle-là, la soirée Halloween que vous avez organisée, Roller Halloween. On a vu aussi qu'il y avait beaucoup de monde à venir pour être sur roller avec de la musique dans la salle. Décris-nous un petit peu.
Alors là, oui, c'était une participation pour Roller Halloween. Chacun venait déguisé et les parents pouvaient chausser les patins avec leurs enfants qui pratiquent ou pas au sein du club. Et ça permettait de passer une bonne soirée et encore récolter des fonds pour l'association. Ouais.
Bon, il n'y a pas eu de cicatrices suite, il n'y a pas eu trop de chutes.
Non, on a la chance d'avoir des infirmières en tant qu'adhérentes qui faisaient acte de présence au cas où.
Voilà, mais bon, on sait que à Quintin, on sait tenir sur les roulettes. Bon, allez, on passe cette fois-ci au rink hockey, puisque Christopher est avec nous ce matin sur le plateau de Radioactive. Forcément, nos yeux vont se tourner vers ce magnifique début de saison de la Nationale 2. Et moi, j'aimerais insister sur les jeunes, avec notamment une jeune équipe en U14 féminine. Là aussi, on voit que le rink hockey, ce n'est pas qu'un sport d'homme. Il y a aussi les femmes qui s'y mettent.
Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai que là, aujourd'hui, nous, en féminine, on a pu en avoir au sein du club. Aujourd'hui, on n'en a pas. Mais c'est vrai que on a quelques jeunes filles qui sont parties dans d'autres équipes permettre de jouer tout ensemble et avec un bon niveau, en tout cas.
Voilà, et donc on espère là aussi, peut-être pourquoi pas, arriver sur des belles compétitions régionales ou nationales. Et donc on y arrive à ce beau début de saison de l'équipe de Nationale 2. J'imagine une belle fierté de se retrouver troisième juste après une belle victoire face aux voisins de Créa.
Oui, tout à fait, c'était un match assez intense qui... avec une équipe de Créa qui a tout donné aussi, et ce qui permet un beau spectacle pour tout le monde. Et on a eu la chance de pouvoir aller chercher les 3 points au bout des 2 fois 25 minutes. Voilà. Mais c'est vrai que c'était intense.
Pour un président, c'est jamais simple. Ça fait combien de temps que tu as ce poste de président du Quintin Roller Club?
Alors aujourd'hui, j'attaque ma deuxième année de présidence.
Voilà.
Avant, il y avait Michael Bossard, et avant, c'était Soisy Grousseau, que certains ont connu avant.
Voilà. Ouais. Et un gros
mais
travail.
Mais c'est pas un poste facile.
Voilà, gros travail, parce qu'il faut un gros staff. On a toujours besoin de bénévoles, j'imagine, au Quintin Roller Club, comme dans tous les clubs de sport.
Dans tous les clubs de sport, de toute façon, c'est vrai que je pense que c'est l'effectif où on en a le moins possible. Et aujourd'hui, on a énormément besoin pour faire vivre l'association. Et toute association confondue. Hein. De toute façon, c'est vrai que... Mais on peut compter sur de nombreux parents qui sont activement là, réguliers, et sur qui on peut compter. Oui, je les remercie en tout cas.
Merci, merci à eux. Quelques mots pour finir, pour montrer là aussi qu'il y a une belle dynamique au Quintin Roller Club. Moi, je vois les stages qui ont été organisés pendant les vacances avec les jeunes, et notamment avec les clubs aux alentours. Là aussi, on voit qu'il y a une coopération, une collaboration, puisque vous accueillez lors de ces stages le RAC, le club de Lamballe, le Roller Sud Guélo. C'est une volonté affirmée de voir les jeunes comme ça, qu'il y ait une belle émulation avec tous les clubs du coin.
Oui, tout à fait. C'est normal qu'entre clubs, surtout de la région, on s'entraide pour permettre d'avoir des stages dans toutes les sections. Et ça permet d'éviter de partir trop loin pour faire ces stages-là. On a des animateurs qui sont diplômés. Après, c'est vrai qu'on... Ça nous permet que les jeunes bénéficient de ces personnes-là qui puissent les former au mieux et apprendre au mieux. Ouais.
Voilà. Et puis pour finir, après avoir parlé des jeunes, on va parler des anciens, du loisir adulte, parce qu'il y a, on peut accueillir les seniors hein, sur le roller. Jusqu'à quel âge on peut les accueillir?
Oh, bah jusqu'à 99 ans, voire plus.
Il n'y en a pas de 99 ans, j'imagine. Les plus anciens chez
non, vous. Non, après, aujourd'hui, 99 ans sur les patins. Le plus ancien, c'est notre président d'honneur, Émile Golen, qui est là depuis la création du club en 1975.
Ah, génial.
C'est vrai que c'est une figure emblématique du club, et aujourd'hui, il vient à tous les entraînements. Il est présent à tous les entraînements. Et il permet de montrer aux jeunes que voilà, à n'importe quel âge, on peut suivre le patin, même si on met pas les pieds dans des patins.
Voilà. Merci beaucoup à toi, Sébastien Auger, donc président du Quintin Roller Club, avec ses trois filières, rink hockey, patinage artistique et patinage de vitesse. Merci beaucoup, et puis bonne saison à vous tous. À bientôt.
Merci à toi, Gaël. Bonne soirée.
Oh, il est content d'être invité la plateau là. Christopher, hein, t'as reconnu?
Ah oui, je suis très bien là.
Il a l'impression d'être revenu à Carré. Les Red Hot Chili Peppers en toile de fond. Christopher, une réaction à ce qu'on a écouté à l'instant avec ton président Sébastien Auger, qui ne pouvait pas être présent lors de l'enregistrement de cette émission, puisque avec cette magnifique animation loto, moi j'aime pas galvauder ces soirées loto pour les personnes âgées souvent, mais il y a toutes les générations, des jeunes aux moins jeunes, ça concerne tout le monde. Ça met du lien social dans le pays de Quintin, parce que Quintin, c'est aussi, comme on le disait tout à l'heure en off, c'est aussi le Vieux-Bourg, c'est aussi l'Enfin, c'est aussi Saint-Brandon, c'est Le Feuille, enfin c'est Plénaud, enfin bref, il y a beaucoup de communes aujourd'hui, beaucoup de villages qui viennent voir et participer à la vie active.
Ah oui, c'est vrai que les villages autour de Quintin, y a pas mal de population, mine de rien. Et les soirées loto, ça ramène beaucoup de monde. Donc généralement, nous, après l'entraînement, on va donner un coup de main aux bénévoles, parce que c'est comme ça que marche un club aussi.
Ouais.
Et c'est là qu'on se rend compte que sans bénévoles, il n'y a pas de club non plus.
Voilà, exactement. C'est des très très belles soirées pour tout le monde. Alors, on va revenir quand même au Ring Coquet, qui est ta grande spécialité, capitaine du Quintin Roller Club. Et puis, bravo pour ce début de saison. Vous êtes actuellement 3e de National 2. Ça veut dire que, ben, finalement, mathématiquement, vous n'êtes pas loin d'une hypothétique montée pour National 1, ce qui serait extraordinaire, du jamais vu à Quintin.
Oui, c'est vrai que pour l'instant, on réalise un très beau début de saison. C'était l'objectif déjà de bien commencer la saison pour bien se préparer et pour les prochaines échéances. Mathématiquement, c'est vrai que on pourrait monter en D1. Après, maintenant, c'est pas forcément l'objectif principal. On va prendre les matchs un par un.
Ouais.
On est là pour gagner les matchs. On sait que dans les têtes de tout le monde, si on peut jouer en N1, c'est on montera et on jouera en N1. Maintenant, on verra ça à la fin de saison et on verra comment ça se passe et comment ça se boutique.
Ouais, la saison est longue, il faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il y a un gros championnat hein, qui est dominé pour l'instant par une équipe du Poiré qui est habituée aux joutes, en tout cas qui descend hein, de National 1, donc un gros vivier de joueurs là-bas aussi dans le 85, hein, dans la Vendée. Donc ils sont premiers en tête avec 12 points et vous êtes second à égalité avec Vaux-en-Velin. Vaux-en-Velin que vous avez déjà affronté et battu 5-3.
Oui, Poiré, ça va être l'équipe à battre, je pense, cette saison en National 2. Et on est pour le deuxième ex-aequo avec Vaux-en-Velin qu'on a battu au début de saison chez eux 5-3, qui est une très belle équipe qui vient de monter de National 3 en National 2, mais qu'il faut se méfier, je pense, dans le championnat qui va être encore un petit peu bizarre cette année, je pense.
Un petit mot quand même réglementaire. La fin de saison, c'est une montée plus une, rappelle-nous un petit peu.
Non, fin de saison, c'est deux premiers montent et les deux derniers descendent.
Voilà. Alors, juste derrière vous, à 3 points, il y a Gujan-Mestras qui a un match de moins. Donc là aussi, Gujan-Mestras, c'est potentiellement une très très belle équipe hein, du côté de Bordeaux, si je ne me trompe pas.
Ouais, c'est ça, pas loin du bassin d'Arcachon.
Voilà, donc là aussi, gros.
Ouais, c'est une belle équipe jeune. Donc pareil, que de la formation du Genèse. Avec un superbe entraîneur et un superbe coach et qui fait un très bon début de championnat aussi.
Voilà, avec une autre équipe du même secteur, Gazin Sestas, que vous avez battu également 6-2.
Oui, qu'on a battu à domicile. C'est une équipe qui connaît bien ce championnat et qu'il faut toujours se méfier. Qui est très forte à domicile et qui perd beaucoup de points à l'extérieur.
Ouais, avec leurs jeunes qui étaient venus d'ailleurs disputer la finale, les playoffs de
U16, oui, à Ploufragan.
Voilà, U16 ouais. À Ploufragan. Hein, et très sympa d'ailleurs comme équipe. Et je sais pas s'ils nous écoutent ce soir, mais bravo parce qu'ils font du super boulot également avec leurs jeunes. Et puis, là où je suis vraiment heureux pour vous, mais on les salue quand même, c'est les copains de Créen, encore un club des Côtes d'Armor qui cartonne souvent. Ça se tire la bourre en National 2 entre Quintin et Créen depuis longtemps. Hein.
Ouais, c'est vrai que ça commence à faire quelques années là que c'est des matchs qu'on aime bien jouer parce qu'en plus d'être un derby, c'est des copains. D'ailleurs, il y a un joueur qui est salarié de Tony à Créen, Julien Boulot, qui joue à Ploufragan avant.
Bien sûr.
Donc forcément, c'est des joueurs qu'on connaît tous et que quand on joue des matchs comme ça, c'est toujours un plaisir. Et quand on gagne, c'est encore mieux.
Alors, raconte-nous un petit peu pour ceux qui n'ont pas vécu ce match, qui n'ont pas pu le voir. Je rappelle que vos matchs sont retransmis pour la plupart, pas toujours, mais autant qu'on peut.
Ouais, on essaye de les retransmettre. De toute façon, on n'a pas le choix, c'est dans le règlement maintenant. Ouais. Et c'était un match piège, parce qu'on savait que c'était une équipe qui aimait bien titiller, qui joue très dur. Et nous, les matchs-là, ça nous énerve très vite. Donc on a pris notre mal en patience, on a mené 4-1. Et jusqu'au moment où, en une minute, on a pris 2 buts.
Chaud.
Il restait 10 minutes, donc fallait tenir la baraque. Et l'expérience a parlé par rapport à eux, donc très content de ce résultat à domicile. Contre une équipe très compliquée à jouer.
Bon, t'es un joli joueur, c'est toi qui portes le brassard, c'est pas pour rien. Mais je rappelle aussi que au-delà de Tony Leroux, qu'on connaît bien ici sur Radioactive, pour l'avoir déjà commenté à plusieurs reprises, énorme joueur. Mais alors, il y a un chouchou, moi, personnellement, alors je l'adore depuis que je l'ai vu la première fois, c'est Joël Palmarola, qui est arrivé chez vous. Il venait de Hergé Gaméric, c'est bien ça hein?
Ouais, de base, il était à Saint-Brieuc, et après, comme Saint-Brieuc, malheureusement, n'a pas pu suivre la saison, il a terminé à Hergé Gaméric.
Ouais.
Et comme Angel nous en a parlé, on a tout de suite accepté.
Quel joueur!
parce que techniquement, c'est une machine de guerre.
Oh, incroyable.
Et il est très jeune.
Il est argentin, hein, c'est ça, hein?
Non, c'est un espagnol.
Un catalan.
Hop, un catalan.
Hop là, attention.
Non, et...
Dis pas espagnol.
C'est vrai que le feeling est passé tout de suite avec Joël.
Ouais.
Parce que c'est quelqu'un qui, c'est un chien sur le terrain, c'est quelqu'un qui a envie de gagner. Et dès qu'il perd, il peut presque taper dans les murs parce qu'il a ça dans le sang. Et c'est vrai que c'est un très très bon copain, et en plus d'être un bon joueur, il est très gentil et serviable.
Ouais. Alors voilà, une petite parenthèse également pour votre gardien qui, voilà, à chaque fois que je l'ai vu, moi, sur les différentes vidéos, c'est Erwan Montalant, c'est ça?
Ouais, Erwan Montalant de la formation Ploufraganaise aussi.
Voilà. Et puis chez vous, bah, tu me le disais tout à l'heure en off, mais il faut le dire, beaucoup de joueurs formés à Quintin, formés localement, qui jouent en National 2.
Ouais, il faut savoir que dans l'équipe de National 2, depuis maintenant 4-5 ans, c'est entre 60 et 70% de la formation quintinaise. Donc c'est même un plaisir en fait de l'avoir, parce que dans certains clubs ils sont obligés de recruter pour former une équipe, et nous on n'a pas besoin.
C'est ça qui est bien.
C'est super. Et puis c'est, en plus d'être de la formation, c'est des superbes joueurs.
Et puis je pense qu'au niveau des supporters, ça doit plaire énormément.
Bah oui, parce que du coup c'est beaucoup de copains, beaucoup d'amis, et on arrive à pas remplir la salle, mais pratiquement, et donc c'est super comme ambiance.
Évidemment. Un petit mot, parce qu'il faut en parler, hein, en Bretagne, on adore le rink hockey. Un petit mot sur Hergé Gaberic, hein, qui était monté en National 1.
Oui.
Descendu parce que financièrement, ça ne tenait plus. Et là, ça redescend de nouveau. On voit que c'est quand même pas simple de tenir le haut niveau. Et que financièrement, il y a beaucoup de déplacements partout en France. À Quintin, de ce point de vue-là, vous avez les partenaires qu'il vous faut pour vous soutenir et j'irais afficher Quintin partout en France.
Oui, bah après, on part du principe, ou si on s'engage dans un championnat à Quintin, la politique c'est de rester dans le championnat, voire de monter plus haut. Donc forcément, on a des bénévoles, et notre président Sébastien qui se démène et qui trouve des sponsors et tout ce genre de trucs qui nous font permettre de voyager en minibus ou en train toute la saison. Et pour l'instant, ça colle. Donc j'espère que ça continuera à coller pendant longtemps.
Il faut le rappeler, hein, dans ce championnat, donc on a trois équipes, hein, des Côtes d'Armor, le RAC, hein, que vous allez bientôt jouer, hein, je crois. Hein.
Oui, et petite anecdote, mon petit frère va arriver à Saint-Brieuc cette année.
Ah, tiens, ça va se plumer entre les frangins.
Donc nickel.
Bon, pas de blessés, hein.
Non, attention
cross. Hein. Donc voilà, trois clubs costa-marocains, hein, le RAC, Créin et Quintin. Mais vous vous déplacez un petit peu partout en France, donc sur Rennes avec le club de Passé,
oui.
Dans la région parisienne avec Villejuif.
Hein, Villejuif, oui.
Il est toujours là-bas, notre ami Titouan Rousseau.
Oui, Titouan. Et on a son petit frère Louen qui joue à Quintin cette année aussi.
Voilà, exactement, c'est là où je voulais en venir. Tout à fait. Donc on va sur Bouguenay, hein, c'est-à-dire Nantes. On va sur Tourcoing, hein, Tourcoing. L'Île-Roubaix,
ouais.
Voilà, hein, bien connu également. Donc on l'a dit tout à l'heure, le Poiré à côté de La Roche-sur-Yon. Alors on fait une petite leçon de géographie, mais comment ça s'organise pour un joueur comme toi, pour partir en déplacement? Vous partez la veille?
Non, on part le samedi matin, tout dépend le temps de route. Si avant Envelin, par exemple, en début de saison, on est parti à...
Envelin, dans la périphérie de Lyon.
Oui, dans la périphérie de Lyon. On a pris le train, donc on a eu la chance d'avoir un train.
Quintin joue contre Lyon. Non, mais oui. C'est quand même.
Et Quintin
même.
A battu Lyon.
Voilà, quand même.
Donc après, tout dépend le nombre de temps de déplacement. S'il y a 6 heures, on va compter 8 heures pour avoir un petit peu de temps de pause et reposer les jambes. Donc on peut partir à 6 heures du matin comme partir à 10 heures.
C'est voilà, c'est grand coup de chapeau à vous tous, parce que alors c'est pas beaucoup de déplacements dans l'année, mais c'est quand même 6 ou 7 fois que ça va être de la très longue distance comme
oui,
ça.
Oui, c'est ça, ouais. C'est ça.
Chapeau.
Après, qu'on signe pour un truc, c'est qu'on sait dans quoi on s'engage aussi. Donc...
C'est des super expériences, parce qu'il y a du super public partout. C'est acharné au niveau des clubs, souvent. Il y a beaucoup de monde qui vient voir les matchs.
Ouais, souvent, c'est vrai que, bah, comme disait Mathieu hier.
Ouais.
Généralement, quand on invite les personnes, ils viennent une fois et après ils n'arrivent pas à en démordre, parce que c'est un sport fantastique.
Bon. La Coupe de France qui arrive ce soir, donc vous jouez à Lesnevin, c'est ça, ce soir, dans le Finistère?
C'est ça, ce soir, deuxième tour de Coupe de France, on va à Lesnevin.
Bon, un match, vous êtes favori, troisième de National 2 contre l'avant-dernier, je crois, de National 3. Début de saison compliqué chez eux, mais Lesnevin, les Finistériens, Finistère Nord, ça se bagarre quand même, hein, c'est toujours des équipes, enfin c'est jamais des équipes faciles à jouer.
Non, on part favori. Après, faut pas, comme on disait avec les gars cette semaine, on a travaillé à l'entraînement pour ce match-là, parce qu'on prend les matchs un par un, et faut pas tomber dans le piège de la petite écurie. Donc on va prendre le match comme un match normal, et on va aller gagner le match et passer au tour suivant.
Exactement, peut-être pour retrouver le SPRS comme l'année dernière. C'était un match qui était serré, le plus fréquent l'a emporté logiquement avec une division d'écart, mais voilà, il y a l'envie un petit peu de temps en temps d'aller titiller le gros.
Oui, l'année dernière on a eu la chance de jouer le Fragant en aller-retour en plus, donc on a eu la chance de les recevoir à Tintin, et on a fait ça le plus que comble. Donc en plus de nous jouer contre le Fragant, pour le public c'était aussi intéressant de voir c'est quoi le haut niveau, parce que Plufragant reste une très grosse équipe. Et après, oui, forcément, défaite, et quand on a joué chez eux, on a subi la loi et la puissance de la N1, donc ça montre aussi qu'on a encore du travail à faire.
C'est ça, exactement, l'humidité, beaucoup d'humidité. Un mot enfin sur Guy Bazin, parce qu'il y a quand même une salle, ça fait depuis très longtemps que le Ring Cocker existe sur Quintin. Tes premiers souvenirs, toi, quand tu es allé, donc tu nous l'as dit tout à l'heure, hein, tu étais ado quand tu es passé de Ploufragan à Quintin, mais il y a des choses qui t'avaient marqué tout jeune lorsque tu étais venu, des ambiances particulières, des matchs particuliers?
Oui, des matchs particuliers aussi, parce que, et en plus j'en ai joué, donc c'est ça qui est pas mal aussi, mais je pense que le match qui m'a le plus marqué, ça va être le match qu'on a joué contre Saint-Brieuc il y a 2 ans, en Coupe de France, où Saint-Brieuc était en N1, dont Angel l'entraîneur et Joël le joueur.
Bien sûr.
Et on perdait 4-0 à 10 minutes de la fin, et on gagne 5-4 le match, parce que le public nous a poussé à la victoire, et que c'est un match de Coupe de France, rien n'est gagné avant qu'il soit terminé.
On salue malgré tout le RAC, hein, qui a connu des difficultés, en particulier sur leur piste, j'ai toujours un petit peu d'amertume quand on parle de ça, mais c'est vrai que ça a été complètement raté par... alors on va peut-être pas jeter le tort sur tout le monde, mais voilà, et ils devaient avoir un super outil, et puis finalement ils se retrouvent avec 100 pistes ou presque, donc voilà, il faut quand même les saluer, et le ring hockey est un sport solide. Eh bien écoute, merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radioactive. Il est 11h52, je crois que Yao, tu vas peut-être avoir un invité tout à l'heure.
Oui, puisque pour cette 10e journée saison 10 en format les éliminatoires mondiales 2026 où les équipes africaines sont en train de jouer actuellement, tout à l'heure on a pris le pouls sportif du côté de Maurice Touré depuis Cameroun, là on ira tout à l'heure en région parisienne. Il y a Willy Dokinou qui suit, puisqu'il y a des matchs en cours, il va nous faire un petit bilan de ce qui s'est passé depuis 2-3 jours, puisqu'il y a toujours des matchs en cours ce week-end, il va nous faire un petit bilan.
Allez, pendant qu'on se branche, on écoute tout de suite Public Service Broadcasting, White Star Liner. Ça a été une belle découverte sur l'émission que j'adore, l'émission Subtrack, que vous écouterez tous les mercredis. Et voilà, on se retrouve juste après.
Sixth of a mile long, 11 stories high, she was the largest and most luxurious diner in the world.
Vous êtes bien dans votre émission Africa Veine Sport. 10e journée saison 10, ce samedi. Et on va continuer avec le format des correspondances sportives de Africa Veine Sport en format éliminatoire mondial 2026. Et où on a la chance d'avoir le correspondant de Africa Veine Sport du côté de région parisienne, Willy Dokinou. Comment va Willy?
Oui, je vais très bien, tout va bien. Et toi?
Ah, et toi très bien. La voix en provenance de région parisienne ce samedi, qu'est-ce qu'on peut demander mieux? Tu es l'habitué de Africa Veine Sport, on va essayer de prendre ton pouls sportif avec ce qui se passe avec toutes ces nations africaines en format calendrier FIFA oblige. Ça va aller très très vite, on peut dire sur un petit diapason avant l'effet Cannes 2024, mais en format mondial, ouais.
Oui, mais avant de commencer, il faut mes sincères condoléances à la famille de notre défunt, M. Teko Kwiatkoe, du côté de Toronto, et que son âme repose en paix, et mes condoléances à toute sa famille et à ses proches.
Oui, affectueusement avec ce qui s'est passé, donc une pensée à toute sa famille et à ses proches, et où il a été pendant des saisons un correspondant vraiment très actif au niveau de tout ce qui est ballon orange de la NBA, du basketball. Donc on va atterrir pour changer de ballon, et toi qui es spécialiste du ballon rouge, plus précisément du football africain, là ce qui est en train de se passer, et puis on a vu les résultats du match d'hier, où on a vu ce qui s'est passé, donc j'ai fait allusion comme Eswatini face à Libye qui a gagné hier 1-0, et puis la République centrafricaine qui a perdu face à Comores, toute petite île de l'océan Indien, qui a atomisé République centrafricaine 4-2. Et oui, donc on voulait avoir quelques lectures au niveau de toutes ces nations, donc des rivalités, hein, les niveaux vraiment, c'est impressionnant, Willy, ouais.
Oui, mais il faut dire aussi que le niveau s'est bien resserré au niveau de l'Afrique. Donc, toutes les équipes se valent plus ou moins. Donc, on va voir qu'en général, on n'a pas de score fleuve, sauf entre l'Égypte et Djibouti. Ça, c'est prévisible. Donc, le niveau est plus ou moins équilibré. Donc, c'est bien pour le football africain déjà. Moi, quand c'est plus ou moins équilibré, on voit que le football africain progresse. Donc, moi, je suis content pour l'équilibre. Sur le plan sportif, moi, ça me fait plaisir qu'il y ait des pays comme le Comores, qu'on a déjà vu à la dernière CAN, la Mauritanie, il y a des pays, Madagascar, qui a fait
match qui a 1-0 face au Ghana,
un petit but au Ghana.
C'est ça.
Donc, ça me fait plaisir en tant qu'amoureux du football africain.
Oui, justement, avec là, c'est dû au niveau des réglages aussi, non? Je fais allusion au niveau du champ aussi, non? Championnat africain des nationaux et panaché avec les internationaux, les expatriés au niveau des clubs étrangers aussi, non?
Oui, mais parce que quand on parle souvent des pros, il y a des pros qui jouent sur le continent aussi, hein? On a beaucoup de Zambiens qui vont jouer en Afrique du Sud, donc les pros ne sont pas qu'en Europe. Donc il y a des pros qui jouent sur le continent. Donc le niveau, c'est pas le niveau des Africains est aussi élevé que le football se joue partout. Donc c'est pour ça que le niveau est plus ou moins équilibré.
Oui, ça c'est très important à le souligner justement avant, vu que c'est un week-end spécial éliminatoire mondial 2026, et on aura plus le temps, on te mettra plus le zoom du côté de la CAN qui arrive à grand pas pour le janvier prochain, où le Sénégal aussi qui va mettre essayer de relever un challenge, puisque c'est lui qui détient, qui est au sommet du le toit du continent sur le ballon rond. Et quelques lectures pour le Sénégal, le tenant du titre.
Oui, mais le Sénégal, là, on le voit, hein, le Sénégal a un grand niveau, ils ont un bon championnat, donc le Sénégal a de la relève en plus, on le voit au niveau de la Coupe du Monde des U17. Mais le problème aussi, pour savoir, c'est que le détenteur du titre au niveau de la CAN n'est jamais à l'abri d'une défaite ou bien d'une sortie dès le premier tour. L'Afrique, le continent africain, c'est difficile à jouer. Donc, il n'y a pas de favori à la CAN. À chaque fois, on le voit. Donc, le Sénégal a du souci aussi à se faire à la prochaine CAN.
Merci beaucoup, Willy. Je dis, on va faire coûte un œil de l'expert du football africain où on te donnera plus. plus de temps de parole en format spécial Coupe d'Afrique des Nations au pays de Didier Drogba. Merci beaucoup. Continuez à consommer Radioactive en région parisienne.
Merci beaucoup encore une fois. Mes condoléances à la famille Kouyakoué.
Ok, on lui fait une pensée à Tekwe Kouyakoué qui nous a posé compagnie et affectueusement à toute sa famille.
Émission la semaine prochaine, mon Yao, avec du football, puisqu'on aura un club qui sera, j'espère en tout cas, au moins un club qui sera qualifié pour le 8e tour de la Coupe de France qu'on recevra sur Radioactive.
Merci beaucoup à tous nos invités qui étaient là vendredi et ce samedi.